Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous et bienvenue chez nous dans le Focus Store 9e du nom, la première émission qui a reçu l'autorisation de ne pas être chiante quand elle parle de culture. Et ça, c'est une grande première. Dedans, on parle de choses dont tout le monde parle, qui font la hype, que ton voisin a petite moustache, grosses lunettes et puis la tête de cerf, il trouve ça trop cool. On en parle et on en dit ce qu'on en pense en toute indépendance. On en discute entre spécialistes et profanes, mais on est tous, au bout du compte, des professionnels de la critique au sein du magazine Focus Vif. À vous de faire votre marché dans ce panel d'opinion et de peut-être construire ensuite la vôtre. Sur les étals, cette semaine, il y a le film Mobius, le dernier album de Vince Anao, la série House of Cards et la BD Mon ami Dahmer. Je vous sers tout ça cette semaine en compagnie du grand Manitou, Laurent Raphaël, le rédac-chef du magazine, avec le petit Manitou, Laurent Houbrex, qui est aussi chef des pages de musique, avec aussi Olivier Van Varenberg. Bonjour. Spécialiste des bouquins, et avec notre homme à tout faire, il est gentil, il est pas cher, c'est voilà. Christophe Errat. Bonjour à tous.
Ah ben bonjour, voilà. Myriam.
C'est salut. Parti. Premier sujet du jour, le film d'Éric Rochant, Mobius, avec un tréma sur le haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mobius? Eh bien, ça veut dire ça. Alors, je vais vous faire un petit bricolage. J'espère que je vais réussir à le refaire.
Comme dans le film, ils ont bien marqué.
Oui, voilà, j'y suis. Alors, vous voyez? Non, c'est pas ça?
Si, c'est ça.
Presque. Ok. Vous voyez mon doigt quand je fais le tour? On croit que ça a deux faces, cette chose, et en fait, ça n'en a qu'une. C'est une surface compacte dont le bord est homéomorphe à un cercle.
C'est de la merde.
Pour comprendre le rapport avec le film, il faut spoiler, et c'est quelque chose que je me refuse à faire. Alors, je vous raconte juste le début de Mobius. À Monaco, un officier des services secrets russes, c'est Jean Dujardin, cherche des éléments compromettants sur un riche banquier russe, c'est Tim Roth. Pour ce faire, son équipe approche un membre de sa team, une jeune tradeuse aux dents longues, Cécile de France, et lui demande de surveiller le fameux oligarque russe. Ça commence donc comme un film d'espionnage sur un mode thriller économique, et ça se poursuit comme un film d'amour, parce que forcément, le personnage de Jean Dujardin et celui de Cécile de France vont se renifler le derrière et se trouver mutuellement très très à leur goût. Eh oui, on en voit beaucoup des derrière. Alors, je trouvais ça à la fois extrêmement grotesque, foncièrement raté, mais plutôt agréable. Je ne sais pas si je dois être honteuse de ça. Je ne sais pas. Olivier, dis-moi ce que tu en penses.
Je te laisserai la maturité du mot grotesque, mais... Ben écoute, donc oui, on a vu le film ensemble, on peut le dire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Effectivement, ça démarre comme un thriller économique avec plein de phrases compliquées, très tendances. J'en avais noté deux, trois. Je négocie 100 000 contrats BNP pour 3 mois. Voilà. Oh, le Ribor 6 mois va remonter. Enfin, des trucs qu'on comprend pas, mais on sent que c'est important. Donc, ça part comme un thriller économique. On se dit, c'est bien Éric Rochant. On pense évidemment au Patriote qu'il a fait il y a 20 ans, très important. Et donc, on attend que ça démarre. Et en fait, le thriller économique devient une sorte de bluette amoureuse entre Cécile de France, qui a un rôle plus important, je trouve, que Jean Dujardin dans le film. Et ça devient une sorte de love story, un peu grotesque pour reprendre ton mot, entre Cécile de France et Jean Dujardin.
Entre les deux, comme ça, entre les deux.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des scènes.
Les scènes d'amour.
Voilà. Déjà, il y a le coup de foudre. Au début, en gros, ça se passe dans un bar. Et donc, sans dévoiler le film, on fera pas de spoiler. On peut dire, puisque Jean Dujardin l'a dit lui-même, que tout le jeu d'acteur consiste à un jeu de sourcils et à copier un petit peu ce que Ryan Gosling avait fait dans Drive, c'est-à-dire être sérieux, basé beaucoup le jeu sur les sourcils.
Mais c'est un peu ça le problème, parce que quand on voit Dujardin jouer du sourcil, on voit OSS 117, oui, quoi, on voit la parodie.
Mais on le voit pas parce qu'on s'amuse dans OSS 117, et ici, globalement, on se fait quand même un petit peu chier, pour dire les choses clairement. Ce que j'ai retenu du film, c'est qu'il y a une scène d'action, il faut quand même le dire au public populaire qui va aller voir le film, il y a une scène d'action qui dure en tout et pour tout 1 minute,
oui, c'est
qui se passe dans un ascenseur, et en gros, ils se mettent 2-3 tatanes, et pour le reste, c'est un jeu de tension et d'amour entre les personnages.
C'est nettement plus impressionnant dans RuneScope avec Mathias Gounard qui écrasait ces deux.
Oui, on est exactement dans le même registre.
Voilà, exactement. Et donc voilà, ici, il y a un petit côté qui fait mal au cœur. Parce qu'en fait, Éric Rochant, moi, j'étais très content. J'étais curieux de voir Dujardin.
C'est un rôle de phénomène dans le cinéma français. Hein. Très mal aimé depuis Un Monde sans pitié, qui avait fait une première sortie, qui l'avait élevé au top. Et puis, il s'est cherché.
il n'a jamais réussi à rebondir.
Ouais, c'est exactement ça.
Et c'est vrai que ce film-ci était un peu dernière chance pour...
Il y a un buzz autour du jardin, Cécile de France après l'Oscar et compagnie, 20 ans après Les Patriotes dans un film d'espionnage qui revient autour de ce thème-là. Et c'est clair que ça fait un peu mal au cœur, parce que globalement, comme je l'ai dit, je pense globalement s'emmerde un petit peu
Avec ce film. Et pourquoi on s'emmerde ? C'est quand même parce que le scénario est famélique. Il a écrit le scénario tout seul, il n'y a pas de roman derrière, apparemment, il a fait ça comme un grand. Mais il aurait mieux fait d'un petit peu s'inspirer de ce qu'il estime être aussi ses influences, c'est-à-dire les séries télé américaines.
Et
ça manque très fort, cruellement, dans la relance. On reste toujours à un niveau de platitude,
sans nombre. Bah, c'était un bon petit téléfilm du dimanche soir.
Oui, ouais, c'est ça. Un petit peu.
Le problème aussi, c'est que finalement, il oscille toujours, j'ai l'impression, entre l'intrigue qui est une intrigue financière ou l'histoire d'amour. Et donc, on reste toujours dans un entre-deux qui est un petit peu bizarre. On reste sur sa fin entre les deux pôles, en fait.
Mais moi, j'ai un peu le sentiment qu'il a écrit ça avec le Wall Street Journal dans une main et le guide de l'Office du tourisme de Monaco dans l'autre.
Fait aussi la visite de Bruxelles.
Voilà. Et ça, ne prenez jamais un train en métropole, il faut le dire, méfiez-vous. J'étais très déçu par le service.
Ah non, mais on le voit passer en voiture à Trône, avec la grande fraise de Jean-Luc Mourman, non ?
Voilà. Mais ça fait partie aussi des choses qui, moi, m'ont gêné dans le film.
Merci, Tax Shelter.
Oui.
Voilà, ça n'est que ça. Mais... Et si dans le film, on sent qu'ils ont mis de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a une sorte de Luc Besson touch, puisque c'est produit par... Voilà, on retrouve ça, Tim Roth qui joue, qui a l'air de s'emmerder autant que son personnage dans le film, qui en gros... baisse les épaules et se traîne pendant une heure et demie pendant le truc, on a un peu cette impression-là. Et alors, ils mettent de l'argent dans plein de scènes qui semblent un peu inutiles. Moi, cette scène qui m'a marqué, c'est qu'il arrive sur le yacht en hélicoptère pour une réunion qui dure 10 secondes, qui n'a aucun intérêt spécialement dans le film. Ce truc a dû coûter 1 million d'euros pour faire atterrir la caméra dans un autre hélicoptère. Et ça n'a pas de sens, quoi. Ça fait un peu...
Quand tu fais un film sur le milieu de la finance et tout ce qui tourne autour de l'oligarchie russe, forcément, tu as ce genre de scène un petit peu too much.
Oui, mais ils mettent tout l'argent là-dedans. Et je trouve qu'il n'aimait pas dans les dialogues, dans les effets de scène. Il n'y en a pas tellement. C'est assez stylé, c'est très propre, c'est très luxueux dans la mise en scène. Mais ça ne démarre jamais, il y a peu d'action.
Ce côté léché, comme ça, maîtrisé.
Et le côté kitsch, c'est vraiment les scènes d'amour aussi. Enfin, on ne fera pas de spoiler.
Mais là, le plus important, les fesses de Cécile de France. Donc, c'est les siennes, c'est pas les siennes.
Donc la doublure fesses de Cécile de France est très bien pourvue, parce qu'on sait très bien que, par contrat, ce ne sont pas les mêmes, mais elles sont charmantes, ça fait partie des atouts de ce film. Il y a quand même le côté un peu Meg Ryan, on n'expliquera pas la chose, mais tu parlais de grotesque. On le frise quand même en permanence à ce moment-là.
Mais ça aussi, par rapport au scénario grotesque, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais la nana qui maîtrise quand même bien les choses, qui est dans le top de la finance, deux jours après avoir rencontré son bonhomme, elle se fait tatouer l'épaule. Ça paraît un peu surréaliste.
En hommage à la personne qui vient de passer la nuit.
Il y a un petit peu ridicule dans cette histoire d'amour où ils tombent follement amoureux l'un de l'autre par un jeu de sourcils pour l'un, de bouche pour l'autre.
Comme tu dis, ce tatouage. Des enchaînés d'Hitchcock, Cary Grant, Ingrid Bergman, mais forcément, il manque quand même quelque chose.
Et encore une fois, ça fait mal au cœur, parce que moi j'attendais, j'étais curieux de voir ce film. Encore une fois, Rochand, c'est un réalisateur que j'ai bien aimé. Les Patriotes, c'était très bon, Monde sans pitié, ça reste référentiel. Et ici, parce qu'en même temps, il prend des risques, c'est ça que je ne comprends pas très bien chez Rochand. Ils mettent beaucoup d'argent dans un film qui est en trois langues, puisqu'en permanence, ils parlent russe, anglais ou français.
Ou yaourt.
Ou yaourt, il y en a beaucoup, mais je vous en voulais. Enfin, il le fait mieux que moi. Et donc, il prend un risque avec le public français qui, a priori, n'attend pas spécialement un film d'action où il n'y a pas d'action, en trois langues, là où ils attendent de voir des gens du genre.
C'est clairement très ambitieux.
Voilà, ça sent un peu le flop annoncé, raté, et on va revoir de nouveau Rochand, l'attendre pendant 20 ans.
C'est quand vous dites qu'on s'ennuie, on ne s'ennuie pas.
Alors, c'est pas la grande cavalcade. La vision de presse était à 9h du matin, il faut bien le savoir, et je ne me suis pas endormie. Ce qui est rare à cette heure-là.
Est-ce que vous êtes pris par l'histoire, par la tension de l'histoire? J'avoue que.
Non, moi j'ai envie de les voir tout nus, s'embrasser.
J'étais très content de voir la doublure cul de voilà, mais à part ça...
Par contre, si tu prends aussi Tim Ross qui s'ennuie, que dire de Emily Deggan finalement, qui prend de son art.
Mais ça, par rapport à ça, on ressent un petit peu, Eric Rochand apparemment sur les plateaux est insupportable et est un peu un psychopathe. Et on sent, je trouve quand même, que les acteurs sont dans une espèce de tension permanente. Et notamment Cécile de France, ça fait peut-être partie un peu de son jeu et ça fonctionne mieux, je trouve, chez les Dardenne. Parce qu'il faut avoir comme ça un petit peu une espèce de malaise métaphysique. Ici, il n'y a pas cette envergure, ce naturel à jouer ce rôle-là. Et je ne sais pas si c'est la tension sur le plateau.
Mais elle est très fine. On va beaucoup parler de ça dans les teasers qu'il va y avoir autour.
Elle a été bien.
Elle a rarement été aussi féminine, aussi attractive, entre guillemets, mais ça ne va pas plus loin.
Mais avec une petite retenue, toujours. Je ne sais pas. Elle n'est pas complètement à l'aise dans son rôle. J'ai l'impression qu'elle. elle reste un peu, elle veut trop contrôler dans les scènes de corps aussi, de corps à corps. Elle est un peu trop dans la maîtrise et je trouve que ça se ressent, voilà. Et ça fait que l'ensemble est un petit peu plastifié, comme ça, on voit un peu. Hein.
Bon,
elle donne beaucoup, hein, faut le
dire. On va mettre une petite notation sur 10, on va mettre des rubans de Mobius sur 10. Voilà. Alors moi, je lui mets 6, parce que j'ai vraiment passé un bon moment.
Ouais, ça, ouais. Moi, pas 3 rubans, allez, 3 rubans.
Moi, 6, moi.
Ouais, mais 6, mais je ne passe pas un moment avec un 6, donc c'est un 6 où a priori on attendra le DVD pour regarder ce film.
Ah oui.
Moi je vais mettre un 5 parce que Myriam avait apporté des très bons biscuits.
Ah oui, vous avez beaucoup grignoté.
Voilà, on a beaucoup grignoté pendant la vision.
C'était on parlait donc de Mobius, le film d'Éric Rochin avec Jean Dujardin et Cécile de France. Ça, c'est le disque de la semaine, c'est Lowena Lorai, le nouvel album de Vincent Ao, qui est sorti le 21 février dernier et qu'il a défendu ce soir-là sur la scène du Botanique à Bruxelles. Laurent et moi, on y était. On vous en reparlera peut-être un peu plus tard. Je vous le dis déjà tout de suite, il faudra me passer sur le corps pour dire du mal de ce disque parce que c'est un coup de cœur comme je n'en ai plus connu depuis vraiment longtemps. Alors, qui est Vincent Ao ? C'est un Bruxellois de 30 ans, un jeune gars qui vient du rap et qui aujourd'hui défriche un genre qui n'appartient qu'à lui, entre chansons françaises crépusculaires et slam du bitume. 4 ans après l'album Saint-Hideuse Bald qui lui a valu un gros succès d'estime, il revient avec ce disque, Lowena Lorai, du nom d'un petit poisson des abysses, qui confirme qu'il est l'un des plus fascinants auteurs de musique en langue française contemporain. Ce qu'il fait, c'est amer, c'est cru, c'est désabusé, mais c'est beau comme un vieux vélo rouillé sous la pluie, comme des traces de doigts dans la buée d'une vitre de bagnole. Écoutez plutôt. Et jugez vous-même, voici un morceau de Kick Snare Bien, le tube de l'album de Vincent Ao. On l'écoute.
Mais des groupes de gens qui devaient prouver où les gros cerveaux voulaient refaire le monde comme des gros poneys, où les gros cerveaux voulaient refaire le monde avant de se le trouer. Je parle d'ado, c'est vrai. Oui, j'y regarde plus près. Certaines choses sont toujours vraies et c'est rare que ça nous effraie. Toujours on s'abîme, c'est juste autrement que ça se décline. Nos lignes de vie sont des effrites. C'était quand qu'on était clean. On s'oublie, on s'invite. C'était quand qu'on était clean. Dans les couloirs de nos botanies. C'était quand qu'on était clean. Quand on vit nos vieux délires. C'était quand qu'on était clean. Nos lignes de vie sont des effrites. C'était quand qu'on était clean. On s'oublie, on s'invite. Ouais, parfois, bah je décline. Dans les couloirs de nos botanies. Bah parfois, ouais, je décline. Quand on vit nos vieux délires. Ça arrive que je décline. Nos lignes de vie sont des effrites. Ouais.
Voilà, c'était Kick Snare Bien de Vincent Ao. Laurent Houbrex, boss des pages musique. Brax. Est-ce que tu as aimé cet album? Dis-moi oui.
Oui, mais oui. Bah, on est plutôt fans hein, dans la rédaction. Oui, on avait bien aimé le premier. Et puis ici. Ici on est complètement dedans. Mais moi ce que j'attends d'un disque, c'est que c'est l'entendre une voix, quelqu'un qui me parle, qui a un univers, qui me dit des choses et qui puisse me toucher, qui soit en même temps extrêmement personnel et en même temps qui puisse résonner. Et là on est complètement dedans. Enfin, c'est quelque chose d'assez atypique et en même temps qui parle exactement de l'époque, de 2013.
C'est super générationnel.
C'est complètement générationnel.
Tu te reconnais dans le personnage qu'il décrit, parce que c'est a priori un personnage plus jeune.
Mais le est très jeune.
Oui, mais non, Vincent Ao, il a quel âge, Vincent
Ao? Il a
30 ans. Voilà, il y a quand même quelques années en moins.
C'est exactement le même âge que Vincent Ao.
Oui, d'accord. Bon, alors que tu reconnais, quoi.
Non, mais...
Tu as grandi, quoi.
Non, il y a quelque chose, en effet, de complètement générationnel, mais qui peut parler à plein de monde, parce que ça recoupe.
Non, mais c'est vrai qu'il y a
les
sujets qui sont abordés, de toute façon, peuvent être
mais quels
compris.
Sont les sujets abordés?
Bah, c'est surtout, quand je vois un petit peu Mickey Mouse qui aborde le sujet du travail, etc.
Alors, il faut dire une chose. Donc, on l'a vu en concert au Botanique et tout ça.
D'après moi, ça va être fort en concert, j'y étais pas.
J'étais avec des personnes qui n'avaient jamais vu, ou en tout cas jamais entendu l'album ici. Le dernier album de Vincent Ao, et qui donc se sont pris le morceau Mickey Mouse en pleine tronche.
Ah oui, faut bien j'ai vu. Il y a une espèce de litanie comme ça. Puis ça me dit nous sommes des Mickey Mouse, vous êtes des Mickey Mouse, je suis un Mickey Mouse. Et puis il fait j'ai un ami qui est mort.
C'est ça, Mickey Mouse, c'est donc. Il travaille pour, je ne sais pas, à Disneyland ou un truc comme ça. Et donc son job de vacances, qui est déguisé en Mickey Mouse, un peu comme.
Oui, j'ai fait ça. J'étais pas Mickey, j'étais tout kill, tout camp. Voilà, ça vous le savez, oui. Il y a Christian Sens pour
relayer. Ça t'a parlé, toi, c'était du.
Moi, ça m'a parlé. Cette chanson, c'est une des préférées de l'album parce qu'effectivement, il y a un flow dedans, il y a un truc lancinant qui est très fort. Mais sur l'univers du travail que ça représente. J'ai connu les sales petits moutards qui te tirent sur le truc qui te pèse 10 kilos sur les épaules. Tu détestes ton voisin, tu te donnes un petit coup et tu dis que c'est l'autre.
Ça, à partir d'un truc comme ça assez banal, voire trivial, donc en gros le job d'étudiant pendant l'été, il nous fait un truc sur... forcément sur le masque, sur les apparences, sur ce qu'il y a derrière, sur... Et c'est absolument prenant. Et j'ai vu la tête des amis qui étaient à côté de moi et qui ont pris ce morceau en pleine tronche. Et voilà, ça fonctionne. C'est assez frappant.
Il y a quelque chose de très touchant, une capacité à créer des petits écrins pour chacune de ces chansons sans s'enfermer dans un genre, de faire appel aussi à des bruits du quotidien, dictaphones et autres, pour créer des univers. Et du coup, ça donne... Une sensibilité qui est propre à chaque chanson, qui fonctionne très bien.
Ça donne un son très belge, j'en en parlais un petit peu avant. Ce côté donc dictaphone, il faut expliquer qu'en gros, il se promène la nuit comme il est insomniaque, qui est noctambule, il se promène avec son dictaphone, il enregistre des sons, etc. Et il y a un son un peu sale, comme ça, un peu urbain, un peu... avec des phrasés qui nous appartiennent, avec un côté purement bruxellois, belge.
Il interviewe un peu ses copains, ils font des références à des sketchs de Lycée Moon et de Franck Dubosc, donc ça ratisse quand même vraiment là.
Oui, ça m'a fait pencher presque dans cette audace créative à du Coco Rosy, cette capacité, c'est un autre genre, mais à apprendre tous les bruits.
C'est pas du Coco Rosy, ne trompons pas les gens qui nous écoutent.
Non, mais d'apprendre tous les bruits environnants et les plus incongrus pour arriver à recréer un univers qui fonctionne.
Un peu comme Chasse et Pêche. C'est un morceau sur ces gens qui s'emmerdent et qui regardent Chasse et Pêche, cette émission mythique de TF1, je pense, en fin de soirée. Et ça commence par un descriptif d'un biotope, d'un animal particulier. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, on rentre dans une chambre, j'ai l'impression, chez quelqu'un.
C'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à faire un morceau sur l'ennui, sur l'emmerdement. Et ça touche exactement tout le monde. Il parle du porno du samedi soir, il parle des séries
méchamment désenchanté, parce que
c'est le bémol que j'ai sur l'album, c'est peut-être le seul que j'ai, parce qu'effectivement, c'est un vrai univers, c'est un artiste plein, qui fonctionne, qui mérite. Enfin, j'ai dit, c'est à comprendre que ce soit un album complètement autoproduit. Je ne comprends pas très bien comment un label ne se dit pas qu'il y a de la qualité intrinsèque là-dedans, mais il faut quand même expliquer que c'est vrai, sur tous les morceaux, c'est quand même très plombé, c'est quand même assez lourd, c'est une ambiance désenchantée, comme tu disais, sur l'ensemble. Voilà. L'ensemble de l'album, je pense que si on se le passe en boucle, à un moment, on a quand même envie de...
Ouais, en même temps, il y a quand même pas mal d'humour. Alors, l'humour, c'est souvent la politesse du désespoir, c'est l'humour noir, mais il y a quand même pas mal de... Et puis, je ne sais pas si vous avez vu cet article dans Le Figaro Magazine, où je ne sais plus quel auteur avait écrit un livre sur l'imposture du rap, comme quoi le rap était complètement tombé dans les clichés bling-bling et tout ça. Et sa face, il dit « j'aime pas les limos, je préfère les corbillards ». Alors oui, bon, ça tombait un peu dans...
Mais tu le classes encore dans la sphère du rap?
Moi, je trouve que Vin Sano, ça doit être classé dans le rap parce qu'il est complètement dans cette esthétique d'abord et dans le côté complètement contemporain qu'a le rap.
Et sans étiquette, quoi.
Vin Sano dit que c'est du rap de blanc. Et ça les dérange. Mais c'est quoi du rap de blanc? C'est quoi du rap de black?
Les Beastie Boys, c'était du rap de blanc.
C'est Eminem, quoi.
C'est... Oui, mais bon, il est pas du tout d'aborder ces sujets-là aussi, je dirais. Venant d'où il vient, il peut pas non plus parler de limousine, de piscine et de choses comme ça. Donc, je crois qu'il est tout à fait dans le propos par rapport à lui. Et donc, c'est bien, c'est un beau recueil, je dirais, de chroniques qui sont des chroniques de vie personnelle.
Ouais, et voilà, c'est de la poésie d'Abribus. Plus. C'est vraiment ça, quoi.
Il
évite tous les clichés rap un peu pénibles pour ceux qui aiment le rap et le hip-hop, ça c'est vrai.
On sent le vécu, c'est ça qui est intéressant.
Ouais.
C'est...
Et a priori, le rap, au départ, en tout cas, c'était vraiment ça. C'était une parole qui venait de la rue, de l'Abribus, et qui remontait, et qui... Il est complètement dedans. Et c'était d'ailleurs très drôle lors du concert de voir qu'il a terminé son concert en revenant justement à un truc, à ses morceaux les plus rap et les plus street, qui collaient vraiment à...
Mais l'ambiance du concert devait être un peu lourde, j'imagine.
Justement, je trouve qu'en concert, il découpait tout ça.
Je crois aussi. C'était l'occasion de faire la fête autour de la sortie de l'album. Il y a beaucoup de gens qui le connaissaient. Il a fait monter des potes sur la scène. Ouais, c'est ça.
C'est là qu'on voit qu'il a beaucoup d'humour aussi, quand il est là avec sa DH en montrant le quotidien, en disant voilà, c'est l'œuvre d'un collectif d'humoristes bruxellois. Voilà, c'est drôle et je pense qu'il va pêcher pas mal de son inspiration.
Il y a pas eu chronique dans la DH le lendemain du concert.
Et pour le coup, ici, il a une grosse pub sur cet album. Autant le précédent n'est pas vraiment porté. Ici, il y a une espèce de hype comme ça. Je ne sais pas si c'est dans la manière dont il l'a fait avec
Fabrice
et Debray. Peut-être, mais il est revenu écouter.
Vous êtes très enthousiaste, on en a fait beaucoup autour. Vous êtes très porté.
Mais par exemple, un des plus grands fans de Vin Sano, c'est Jodek Mine, quoi, le directeur du 140, qui a 80 ans, mais qui est un punk complet, qui a tout vécu, mais qui est à fond dans ce personnage.
Entre autres, parce qu'il reconnaît des talents littéraires au bonhomme, et qui font parfois défaut dans l'univers du rap. Et ici, il arrive à créer sa propre musique verbale, et c'est ce qui frappe, qui fait mouche, quoi, dans ce qu'il décrit.
C'est l'occasion de rappeler aussi que sur le site de Focus, on peut voir une superbe vidéo réalisée par notre ami Kevin Dechin, où on voit Jodek Mine et Vinsano, notamment, puisque Julien Broquet,
Kevin l'ont suivi. Par rapport à l'album, quand tu l'écoutes, le suivre toute une nuit, effectivement, tu sens que c'est une ambiance de noctambule, c'est un album fait par un insomniaque qui est fait la nuit, qui ne voit pas souvent...
C'est Julien qui l'a suivi de 18h à 6h du matin, et qui est passé...
C'est très cohérent par rapport à ce que tu écoutes et ce que tu entends, c'est une ambiance comme ça. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ne se reconnaît pas dans la scène slam, alors que pour moi, au niveau du phrasé et de la manière...
Mais il y a un truc très politiquement correct dans le slam qui ne lui correspond pas du tout. Lui, c'est une espèce de sioran comme ça, hip-hop, et qui n'est pas du tout dans ce truc très, très... Oui, très politiquement correct, très grand corps malade et tout ça. Il est vraiment à des milliards d'années
dans
de tout
dans
ça.
Dans la manière, on se rapproche quand même d'un slam rappé entre guillemets. Je sais pas très bien comment il faut dire avec
Les sources, dans la chanson française, alors dans la chanson, je dirais que dans le slam.
Bah, c'est comme un Abdel Malik qui faisait de la poésie urbaine. On se retrouve un peu dans des univers comme ça.
Oui, mais ici il y a une espèce de bricolage de génie acoustique autour qui fait que ça sort quand même. Ce créneau-là.
Le collage visuel aussi, par la même occasion, parce que quand on regarde la plupart de ces clips, c'est quand même une image qui est relativement léchée, et bien en accord avec le personnage. Quoi. Donc ça renforce très très fort aussi ses propos, c'est assez agréable.
On mettrait bien une petite cotation, on mettrait bien des petits vélos rouillés. Sur 10, combien de vélos rouillés?
Un bon 8 vélos rouillés, ouais.
Oui,
7, mais qu'est-ce qu'il te faut?
7, c'est exceptionnel. Moi, j'ai 3. De 4 étages, c'est génial.
Moi, c'est un 9. Un bon 9.
Ouais, moi aussi, c'est un 9. C'est un
bon 9. Ouais, moi, je mets un 8 sous Xanax et un 7 quand j'ai tous mes esprits.
Vous savez pas, oui, c'est ça, le jour ou la nuit.
Voilà. Si j'ai une bonne nuit, jusqu'à 8. C'est difficile. Il ne faut pas le se mettre pour se réveiller.
On parlait donc de Lowena Lorai, le nouvel album de Vinsano. C'est l'occasion de rappeler qu'il sera au Botanique, à l'occasion des Nuits Botaniques, le 11 mai, au Muséum du Botanique à Bruxelles. La série qu'on a choisi d'évoquer cette semaine s'appelle House of Cards. C'est un événement à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'elle a été produite pour Netflix, le plus gros site américain de VOD, qui n'est pas une chaîne de télévision. Le second, c'est que les 13 épisodes de la série ont été relâchés sur le net en même temps et que le public pouvait choisir à quel rythme les visionner. Et le dernier, c'est qu'elle a un sacré pedigree, coproduite par David Fincher et Kevin Spacey. Le premier en a réalisé quelques épisodes. Le second est le héros de chacun d'eux. Il joue Frank Underwood, un membre du Congrès américain qui voit le poste de secrétaire d'État qu'il convoitait lui passer sous le nez et décide de se venger soigneusement de tous ceux qui l'ont trahi. Pour ce faire, il n'est pas tout seul puisqu'il fait équipe avec sa femme, interprétée par la très classieuse Robin Wright, et avec une jeune journaliste qui a les dents, qui raye le parquet et qui est jouée par Kate Mara. Je vous laisse quelques instants avec des images de la série.
We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise. But circumstances have changed.
The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances.
I knew you shouldn't trust that woman.
I didn't. I don't. I don't trust anyone.
Then how could you not see this coming?
Alors, ça fait beaucoup penser à Boss, sauf qu'ici, l'accent n'est pas mis sur la tragédie shakespearienne, mais presque exclusivement sur la manipulation qui est partout, qui est tout le temps. Monsieur Erat. À vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Beaucoup de bien. En tout cas, je trouve que la manière de narrer en fait l'histoire est relativement efficace et assez originale, puisqu'il y a Kevin Spacey, alias donc Frank Underwood, qui est le personnage principal, qui a cette particularité de temps en temps, mais qui a cette particularité de se retourner de temps en temps vers le spectateur pour l'inclure dans l'histoire. À partir de ce moment-là, moi non, ça ne me gêne pas, au contraire, je trouve que ça donne un petit peu une connivence, ça permet au spectateur d'avoir une longueur d'avance peut-être sur les protagonistes, donc je trouve ça encore relativement sympathique comme
qu'il
procédé.
Surtout qu'il le fait avec un naturel assez bluffant.
Et puis avec sa tête, etc., donc avec toutes les mimiques qui vont avec, je trouve ça assez, assez convaincant en tout cas comme procédé.
Tu disais que c'était pas une tragédie grecque, je t'ai vu tiquer en même temps que moi, je trouve que c'est très tragédie grecque justement, les deux personnages sont un peu...
J'ai dit shakespearienne, j'ai pas dit grec.
Shakespearienne, pardon. Ah. On va dire que c'est une tragédie grecque ici, qui a un côté très manichéen, très...
avec la vengeance programmée.
Voilà, très baroque.
Et en même temps, on est très loin, enfin tu voilà, t'as directement donné la référence à Boss, qu'on... on est très loin de la densité, de la noirceur de Boss,
ça,
on est dans un
moins
truc
glauque, moins
léger,
torturé.
Oui.
C'est quand même pas joyeux, c'est très cynique, c'est très américain.
C'est très cynique, mais ce n'est pas tragique.
Mais c'est moins torturé que Boss, c'est moins philosophique que Borgen qui se passe aussi dans les coulisses, mais c'est plus sensuel, plus glam, mais avec tout le cynisme qui déborde de tous les côtés. C'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir comment la série va évoluer, comment ces personnages qui ont signé une espèce de pacte diabolique dans le couple va réussir à sortir de ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, au fil des épisodes. Au début, je me dis, on va s'en mêler là-dedans, on va rester dans cet univers un peu feutré, c'est la vengeance programmée, et on sent que ça se lézarde. Et ça peut donner une deuxième partie d'autres saisons assez intéressantes, notamment chez sa femme.
Parce qu'il y a deux saisons
que je trouve phénoménales.
Dans
ce rôle,
elle est radie, tout à fait. Elle est diabolique, elle est vraiment dure.
Contrairement à notre ami... Non, Kevin est impeccable aussi,
la journaliste.
Oui, elle est un peu fade.
J'ai du mal avec son physique de petite Lolita comme ça, un rôle de fonceuse, d'aventurière du journalisme, du néo-journalisme.
On n'y croit pas
trop, quoi. Qui arrive à séduire ce vieux routard.
Il y a plusieurs incohérences comme ça. C'est comme, je crois que c'est le troisième ou quatrième épisode où le député, Kevin Spacey, doit retourner dans sa juridiction parce que il y a une espèce de grand panneau en forme de pêche qui a causé l'accident d'une jeune adolescente qui s'est tuée, et donc du coup c'est le grand, on n'y croit pas une seule seconde à ce truc. Et en même temps,
aux États-Unis,
ça fonctionne.
C'est encore.
Moi, ce qui m'a plu dans la série par rapport à ça, c'est que justement, ils prennent le jeu du politiquement incorrect. C'est un démocrate, alors que c'est quand même une ordure finie.
Tout à fait.
Sa femme est diabolique, tu l'as dit, c'est le bon terme, et elle s'occupe d'une association caritative.
Oui, qui construit des puits en Afrique.
Voilà. Donc, vire la moitié
de son personnel. C'est ça qui est intéressant. Ils prennent des personnages d'habitude, c'est des charges politiquement correctes contre un républicain et une ordure qui fait des boulots d'ordure. Ici, c'est tout à fait le contraire. Ils sont à des postes a priori très sympathiques.
Avec beaucoup de jouissance.
Voilà. Et ils sont horribles par rapport à ça. La fille, elle vire tout le monde, elle fait du lobbying. Enfin, c'est très
le jeu. Les apartés de Kevin Spacey permettent justement d'insister sur cette jouissance, à être parfois cynique et à se venger comme ça, personne par personne, à éliminer.
Ça m'a sorti de l'intrigue. On me rappelle que je suis dans une série et pas dans une vraie histoire. Quand hop, il se retourne vers la caméra et qu'il me parle. Je trouvais ça. Il fallait trouver un truc pour faire différent des autres.
Donc c'est une série qui a un remake d'une série de la BBC.
Et même une adaptation d'un roman.
Et donc ils adoptaient déjà ce principe-là.
Mais il y a d'autres séries américaines qui l'adoptent aussi.
Et on retrouve aussi cette espèce de distance, d'ironie un peu anglaise, qu'on retrouve un peu dans. Et qui rend du coup aussi la série un peu plus légère. Non, mais j'ai fait mon travail, j'ai regardé des extraits sur YouTube.
C'est aussi au-delà de l'aspect événementiel de la série, il y a quand même toutes ces dimensions. C'est le mariage entre le cinéma et la télé avec David Fincher qui est en coulisses.
Il y a Joel Schumacher aussi qui a fait quelques épisodes.
Voilà. Et donc ici, c'est sous l'hôtel, une espèce de mariage sur l'hôtel de Netflix en plus, qui est le futur mastodonte du cinéma. D'une espèce d'hybride cinéma dans son salon, puisque aux États-Unis, c'est déjà 30% du trafic Internet certains soirs, puisque pour rappel, donc, cette plateforme permet de regarder en SVOD toutes les séries et les films quasiment qui sortent.
C'est un changement complet,
révolutionnaire. Et ici, que des grosses productions arrivent à se faire directement sur ces plateformes, avec, comme tu le disais, les épisodes disponibles en une fois si on veut se faire toute la saison.
On consomme tous des séries comme ça. Qui ici attend de regarder une série toutes les semaines, de passer Doctor House en français?
Tout à fait, mais la télé...
Tu pirates, tu télécharges tes séries?
Non, pas du tout, je vais acheter.
Mais la télé historique fonctionne encore comme ça, donc voilà. Ça va la
mais
bousculer complètement. Série quoi.
Voilà, il y a Homeland qui a commencé sur RTL, qui va regarder Homeland en français?
Alors que le DVD sort en même temps.
Et
que le DVD... Il y en a un peu plus le DVD est sorti aussi, oui, mais voilà, avec la technologie qui va évoluer...
Il y a une autre manière de consommer.
L'écran qui sera connecté à Internet, on aura directement une espèce de plateforme comme on a aujourd'hui Spotify et Deezer, mais on aura Netflix et d'autres qui proposeront la même chose en cinéma.
Et tant qu'on parle de modernité, moi je trouve quand même à l'intérieur des images de la série, c'est super moderne, ça utilise les blogs, ça utilise Twitter, mais comme on l'utilise vraiment, pas en gadget, on va vous en mettre plein la vue, on va employer des termes technologiques de jeunes...
Il y a des petits effets fincheriens comme ça dans les premiers épisodes qu'il a tournés, où on voit les emails qui apparaissent, ce qu'il envoie par son smartphone. Il y a ce petit côté-là.
C'est des petits gimmicks. C'est peut-être des gadgets, mais en tant que tel, c'est utilisé avec parcimonie.
Il y a des discours, parce qu'au début, la journaliste, il y a la journaliste, l'ancienne génération, comme nous, messieurs, dames, qui fait du papier, qui est complètement ringard, on fait des recherches, et puis l'autre qui fait son blog, qui doit sortir du truc très vite. Il y a un petit discours là-dessus qui est pas...
caricature, mais c'est vrai qu'on est... Oui, oui, parce que quand on voit la série de la BBC qui est des années 90 et celle-ci où on est tout à fait sur d'autres enjeux, et oui, c'est intéressant.
Ils utilisent très bien quand même le plaisir à regarder des gens faire mal à d'autres.
Ah, c'est sadique, pour pervers.
C'est très sadique, même les images sont glacées, mais il y a quand même une jouissance à voir ça. Et on peut en sentir coupable, mais c'est quand même bon quand c'est fait avec autant de talent et les dialogues, clac, on parlait de Mobius. Et de des dialogues familiaux.
On a pas parlé des dialogues de Mobius, on aurait pu.
Voilà, ici, ça claque comme des gifles, quoi. Je veux dire, chacune des réparties de Kevin Spacey, on aimerait la prendre dans sa poche pour la sortir à la première incartade, quoi. Je trouve que c'est assez bien balancé. Ouais,
même la relation entre les deux protagonistes, entre Robin Wright et Kevin Spacey, on a du plaisir à la sentir et on a déjà une certaine impatience à la voir évoluer dans les épisodes suivants, bien sûr. Certainement.
Ouais, c'est un peu le couple à la Borgia, comme ça, on sent qu'ils ont passé un pacte complètement diabolique entre eux. Ils sont vraiment.
C'est pas un mariage, c'est vraiment un pacte.
Ah oui, complètement. On ne sait pas vraiment s'il y a de l'amour entre les deux, s'il y a de l'intérêt mutuel, la fille qui lui dit de faire du rameur, puisqu'il doit se mettre en forme. Il y a un côté très pervers. Et c'est vrai que la réussite de la série, je trouve, c'est Robin Wright qui a. Ça fait longtemps que c'est une actrice qu'on aime bien, qu'on voit toujours dans des rôles un peu mièvres. Et ici, elle est vraiment dure. Ouais. C'est vraiment. Enfin, on parlait de tragédie grecque pour revenir là-dessus, mais je trouve qu'il y a la.
Shakespearienne.
C'est ça qu'on a dit.
Les gens choisiront.
Bon, une petite note sur 10, on va mettre des briques. Parce que les briques, si vous avez tenu jusque-là, les briques sont un élément important de cette.
Allez, 7, entre 7 et 8 briques, peut-être 7,5. Une demi-brique, on peut.
Moi, 8 briques, ouais, je les assume.
6, parce que je trouve qu'il y a rapidement un côté systématique où il y a un peu un côté agence touriste comme ça, où au début de l'épisode, on se dit « Ah, donc il doit résoudre ça, comment il va s'y prendre ?» Et finalement, il y arrive toujours. Donc 6, parce que ça n'a pas le souffle de Boss non plus.
Mais il faudra absolument que je voie Boss parce que je vais mettre 7. Parce que moi j'ai relativement bien aimé, mais il faudra que je regarde Boss pour voir si je dois mettre 6, celle-ci.
Moi je mets 7 et je pense tout pareil que Laurent. Ça n'arrive pas souvent, alors soulignons-le. On parle de House of Cards, la série de David Fincher et Kevin Spacey.
Pour des tueurs en série sadiques, le meurtre est secondaire par rapport aux actes de torture. En revanche, Jeffrey Dahmer tuait pour entretenir une relation, pour ne pas être seul. Le seul rapport qu'il était capable de vivre, parce qu'il se sentait profondément rejeté par les humains, était avec des cadavres.
Et enfin, on termine ce tour de table des objets culturels incontournables du moment par une BD, ou plutôt un roman graphique signé Durf Bogdurf, qui s'appelle John, en fait, dans la vraie vie. Durf Bogdurf. La BD s'appelle « Mon ami Dahmer » et c'est un récit à la première personne de son auteur autour d'une histoire vraie, celle de Jeffrey Dahmer, un de ses camarades de classe dans les années 70, qui deviendra plus tard l'un des tueurs en série les plus effrayants de l'histoire des États-Unis. Il sera arrêté en 1991 après avoir commis 17 meurtres, condamné à 957 ans de prison et puis assassiné dans sa cellule par un co-détenu 3 ans plus tard. Bogdurf raconte sa drôle de relation avec le futur meurtrier, pas vraiment d'amitié, plutôt entre la fascination et la moquerie envers un gamin que l'on qualifierait aujourd'hui de Rémi, de Rush. Et il postule que ce gamin portait déjà en lui tous les germes de son funeste destin et que les adultes qui l'entouraient, en fait, n'ont pas fait leur boulot, tout simplement. Alors, ça glace les sangs, ça fait froid dans le dos. Je suis sûre que, comme moi, des Dahmers, vous en avez côtoyé plein sur les bancs de l'école. Personnellement, cette lecture a exhumé de mes trous de mémoire pas mal de choses pas très jolies que j'ai faites durant mon adolescence. Oui. Excuse-moi, Jonathan. Alors, dans son œuvre, c'est un petit chef-d'œuvre. Et je crois que c'est ton avis aussi, Laurent Raphaël, puisque tu nous l'as imposé.
Exactement.
On n'avait pas tellement le choix.
Je ne voulais pas que vous passiez à côté de ce chef-d'œuvre. Non, franchement, je trouve que c'est une des BD de l'année. On n'est qu'au début, mais je crois qu'elle sera gravée dans l'année 2013. Ben, ce qui m'a surtout séduit, c'est cette capacité de l'auteur, qui est un auteur de BD, un dessinateur américain indépendant, pas connu de ce côté-ci.
Et journaliste aussi.
et journaliste, qui a mûri ce projet depuis 1994, qui en a sorti une version réduite de 24 pages en 2004.
C'est d'abord ça.
Auto-édité. Et puis, voilà, c'était pas suffisant. On sent que depuis qu'il a appris ce qui est arrivé à ce Dahmer, ce camarade de classe, eh bien, il fallait qu'il sorte et qu'il raconte l'histoire de l'autre côté de la lorgnette et du miroir médiatique, puisque forcément, a priori, on a très peu de sympathie pour Jeffrey Dahmer, qui a tué 17 personnes. Et ici, on humanise...
Il faut quand même expliquer que c'est un fou total qui l'ait mangé, qui l'ait découpé.
Le cannibal de Milwaukee, comme on le surnommait. Mais ici, on arrive à l'humaniser, c'est-à-dire qu'il part sans préjugés. Il remonte toute l'histoire jusqu'au premier meurtre, donc on ne doit pas s'attendre à des scènes de crime épouvantables, puisqu'il raconte l'histoire avant, pendant toute la genèse scolaire. Et on voit très bien, je trouve que ça devrait être presque imposé dans les facs de psychologie, parce que j'ai rarement vu une explication aussi claire de l'évolution psychologique d'un personnage qui va s'enfermer petit à petit et qui va fuir le réel à cause d'une famille dysfonctionnelle, qui va plonger d'abord dans l'alcool, et puis il va y avoir un mélange de pulsions, une homosexualité refoulée avec des pulsions de mort qui vont finir par fusionner. Mais c'est incroyable de voir ça.
Une petite nécrophilie.
Voilà. Mais qui, au départ, n'est pas un être complètement perdu pour l'humanité. On sent qu'il y aura encore eu moyen de le sauver si ses camarades, si les adultes, si sa famille avait été un petit peu au rendez-vous et l'avait sorti du pétrin.
Fondamentalement, on ne découvre pas de raison qui. On se dit, après avoir lu, ah ok, c'est à cause de ça.
Les parents, tout à fait, c'est pas automatique.
Un gamin qui est asocial, qui n'est pas intégré dans son école, c'est ça qui est glaçant dans ce bouquin. Ouais. C'est qu'on peut retrouver, comme tu dis, des camarades qu'on a eus dans notre école, des moments de relation. Voilà.
D'ailleurs, Olivier, quand tu étais jeune, tu devais.
Je n'en suis pas à 17, mais tout va bien. Non, mais c'est ça qui est glaçant là-dedans, c'est qu'on a tous rencontré des gens qui ressemblent un peu à Jeffrey Dahmer, et ça pose quand même la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut emprisonner tous les asociaux qu'on voit dans les classes? Est-ce qu'il faut alerter les autorités quand on voit un gamin qui ne parle pas aux autres? Ça pose des questions comme ça.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une dimension autocritique, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une culpabilité d'Herb Backderf qui veut expier cette espèce de faute de pas être venu en aide au personnage. Des scènes de cantine.
Même s'il la met quand même surtout sur le compte des adultes, en fait. C'est ça que je trouve petit peu dérangeant.
Non, il a raison. Des adolescents n'ont pas la responsabilité.
Probablement, mais malgré tout, il y a une tentative de...
C'est
des enfants.
Ouais, mais enfin, quand ils jouent, tu vois qu'ils le font faire ils l'amènent au centre commercial pour faire des crises d'épilepsie. Je veux dire, il reconnaît en montrant ça. Je trouve qu'il est assez assez franc.
C'est terrifiant de se dire que des enfants ont la responsabilité de surveiller d'autres enfants, parce que c'est des enfants. Quand l'histoire commence, ils ont 15-16 ans, ça se passe dans ces moments-là. Et c'est ça qui parle à tout le monde. On est dans un quotidien, il n'y a pas de scène de choc dedans, ça ne tombe pas du tout dans le voyeurisme.
Ça, je crois qu'aussi, c'est dû en partie au graphisme qui rappelle Crumb.
Moi, je propose à Christophe qui a l'œil et la patte.
On retrouve des choses très intéressantes au niveau graphique, au niveau du dessin, puisqu'on est dans un dessin qui est très proche de ce qu'a pu faire un Crumb ou un Shelton, et des choses comme Mad dans les années 60-70, mais en plus géométrique, et aussi, de manière générale,
ce qui fonctionne bien avec le personnage, quoi. Parce que typiquement, c'est un personnage sorti des 70s.
C'est l'utilisation aussi de tout ce qui est noir et blanc, de tout ce qui est des ombrages, etc., qui donne encore un peu plus de densité et un petit peu plus de crédit au propos.
Ça renforce très très bien. Je n'étais pas fan du tout du dessin au début.
À la base,
cette grande tête rectangulaire, comme ça, un peu difforme, très répétitif. Le dessin, par exemple, des voitures, ils utilisent énormément la voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun là-bas. Enfin bref, ils s'emmerdent.
C'est un portrait de génération aussi.
Oui, les voitures sont dessinées de manière très très basique, comme ça, quasi enfantine. Et en même temps, il y a des planches ou des cases qui sont vraiment assez époustouflantes.
Sans dévoiler le bouquin, la fin, comme tu dis, ça se finit avec son premier meurtre. C'est simplement une lumière qui s'éteint dans la maison et on sent tout. toute la tension de ce personnage.
Enfin, graphiquement, c'est du, un fond noir et des traits blancs.
Mais il y a aussi, je trouvais, une dimension assez Truman Capote, une espèce de presse de reportage un peu fictionnel.
C'est du documentaire. Hein.
Voilà. Et d'ailleurs, il s'est appuyé sur énormément de documents, puisqu'il a ressorti tous les dossiers du FBI.
Il y a
plein de témoignages. Voilà. Et donc, il y a de la profondeur. Il y a de l'authenticité et une histoire subjective, mais quand même qui repose sur des piliers solides. Et ça m'a fait penser à Sueur froide, des choses comme ça. De sang froid, pardon.
Moi, je lui mets 8 tueurs en série sur 10.
Ah, un bon 8 aussi, 8 tueurs en série, bien sûr.
Je monte jusqu'à 9, sur enchère.
Carrément, un 8.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je vais mettre un 9.
Ah, bah, je pense que c'est notre must-have de la semaine pour parler en magazine féminin.
Je salue Jonathan. Moi, je salue Eric.
C'était Mon ami Damer qui est paru chez Ça et Là. Et un petit tour de table rapide pour terminer, des coups de cœur de la rédaction. Alors je me permets de commencer avec Black Mirror, une mini-série britannique dont la deuxième saison, c'est complètement glauque. Ça vient tout juste de se terminer en Grande-Bretagne. Bon, il n'y a que 3 épisodes dans cette saison-là, il y en avait que 3 pour la première aussi. C'est produit par un de Molle, et ça c'est quand même solidement ironique, étant donné que c'est une critique bien bien gore de la société de l'écran, enfin en tout cas...
Le cynisme jusqu'au bout.
Voilà, oui c'est ça, le système, récupère le système, c'est incroyable. La première saison était déjà... fameusement noir, notamment avec cette histoire de Premier ministre britannique, je ne sais pas si vous l'avez vu, que l'on somme de sodomiser un cochon en direct à la télévision pour espérer faire relâcher une princesse qui a été kidnappée par des ravisseurs complètement malades mentaux. Et donc, on voit le public devant son écran en direct pour assister à cet accouplement homme-animal. Il n'y a pas de choses aussi gore que ça dans cette deuxième saison, mais ça reste quand même solidement malsain, à la limite même du traumatisant. Mais c'est un vrai coup de poing. On en trouve ça nulle part ailleurs, même au cinéma. Et puis, c'est pas des épisodes, c'est des volets différents. C'est comme 3 téléfilms. C'est très beau. Visuellement, c'est très très bien mis en scène et ça se regarde avec la mâchoire décrochée et les yeux exorbités. Enfin, c'est incroyable. Quoi. C'est ça. Enfin bref, ça s'appelle Black Mirror et enfin pour moi, tout le monde devrait regarder au moins un épisode de Black Mirror dans sa vie. Si tu n'as pas vu Black Mirror à 30 ans, tu as raté ta vie. Oui, exactement.
Laurent.
Alors moi, je viens à quelque chose de plus sage. Enfin, en apparence, en tout cas. Enfin, c'est le roman de Marine Diaye, La Divine. Donc, ex-Goncourt pour son roman précédent, 3 femmes puissantes, qu'il a élevé au rang un petit peu d'icône des lettres françaises. Et ici, elle revient avec un univers féminin, puisque c'est l'histoire de 3 générations, mère, fille, petite fille, qui vont se transmettre une espèce de malédiction, c'est-à-dire le sentiment de honte d'être étrangère et d'appartenir à une autre culture. Et donc, elle va raconter avec sa manière très chamarrée, une écriture, phrases longues, voire kilométriques, mais qui vont jusqu'au bout des sentiments.
C'est très hypnotique, comme
écriture. Oui, c'est ça. C'est vraiment magnétique parce que son style lui permet d'aller dans la nuance de chaque sentiment et ressenti émotionnel. Et donc, on est dans un trouble qui finit par prendre aux tripes. Et donc, elle raconte ça de manière magnifique, avec des intrusions de fantastique, mais qui fonctionnent très, très bien. Et ça fait un objet assez énigmatique, très féminin, et qui est exceptionnel, voilà, qui porte la littérature, la langue française à son sommet.
Étonnant. Laurent, surpris qu'on s'adresse à toi.
Oui, tout à fait. Non, mais on parlait tout à l'heure avec Mobius du système financier et tout ça, tout ce genre de manipulation
en bourse,
l'argent. Et il y a un bouquin qui est sorti chez la maison d'édition Zone Sensible, qui est une maison d'édition assez épatante, qui s'appelle, le bouquin s'appelle 6. C'est écrit par un auteur,
comme le chiffre,
écrit par un auteur qui s'appelle Sniper, en tout cas c'est son pseudo. Maintenant on sait que c'est le chef, enfin le patron de Zones Sensibles. Et c'est un bouquin qui... c'est une espèce d'enquête-reportage sur l'envers de la bourse et de la manière dont les programmes informatiques ont pris un peu le contrôle. Et voilà, en gros, le but pour les traders, c'est d'aller le plus vite possible. À un moment, l'humain ne peut pas aller plus vite que son cerveau. Et donc, ils ont fait appel à des machines qui, peu à peu, ont pris un peu le contrôle de la bourse et c'est absolument passionnant parce que c'est souvent écrit comme quasi comme un roman policier. Il y a des personnages complètement de brigands assez énormes et donc c'est assez passionnant à lire pour un ouvrage qui parle a priori de finance et tout ça, ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc voilà.
Olivier, toi, c'est venu avec un grand
livre ? Non, moi je suis avec du léger. Moi je suis avec un CD. Bon, j'avoue que c'est un que j'ai téléchargé, que j'ai payé, mais que j'ai téléchargé, donc je n'ai pas le support. C'est un gros bordelais, je vous conseille, qui s'appelle Stop 2, que j'ai découvert, pour tout dire, à Angoulême. Le titre s'appelle Double Distillation. Rien que le programme est magnifique. Donc c'est du blues country punk. C'est deux guitares électriques, un washboard, une stompbox. Et ça déchire. C'est fait par un Français qui s'appelle Olivier Besseron, qui est aussi dessinateur. Et voilà, c'est un CD Double Distillation, Stop 2. Ça se trouve facilement sur les réseaux, etc. Et c'est irrésistible.
Et toi, mon petit Christophe, tu as une petite option à nous présenter ?
Moi, j'avais, je pense, des History of Apple Pie, un CD, mais ça s'appelle Out of View, c'est History of Apple Pie. Et c'est un groupe apparemment de 5 jeunes, je crois, britanniques, en fait. Et ça aurait pu sortir en 1993 ou 1994. Ça fait fort penser,
est-ce
en fait.
C'est...
Oui, c'est bien. En fait, ça peut faire penser à du Lush, du Elastica, ce genre de choses-là, avec des voix féminines et des grosses guitares derrière. Donc, il y a un petit côté mélodieux et en même temps, ça crache bien. Donc, je trouvais ça plus ou moins une belle combinaison. Donc, voilà. Une bonne pêche.
Eh ben voilà.
Des livres sérieux et des disques qui font du bruit.
Et ben voilà. C'est tout pour cette fois. Merci de nous avoir suivis. D'ici le prochain numéro, on vous invite à nous lire dans le magazine Focus Vif, vendu avec le Vif l'Express. Merci Christophe, Laurent, plaisir. Laurent Bis Myriam. Et Olivier.
Merci Myriam.
À très bientôt. Myriam. Ciao.
À bientôt. Salut. Salut.